VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 9 novembre 2017. Crise au Cameroun anglophone, couvre-feu nocturne à Bamenda dans le nord-ouest du pays. La CPI autorise l'ouverture d'une enquête au Burundi pour crimes contre l'humanité présumés. Un Mauritanien condamné à mort pour blasphème a vu sa peine ramenée à 2 ans de prison en appel. Purge anti-corruption en Arabie Saoudite, 200 personnes arrêtées. Deuxième jour de la visite de Donald Trump en Chine. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Feu vert des juges de la CPI pour une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés dans les troubles survenus entre 2015 et 2017 au Burundi, qui a quitté la Cour pénale internationale tout récemment. Solange Niamouliza.
La CPI a annoncé avoir autorisé le procureur, dans une décision rendue sous scellé le 25 octobre, à ouvrir une enquête sur des crimes relevant de sa compétence et qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays entre le 26 avril 2015 et le 26 octobre 2017. Cette décision a été immédiatement dénoncée par le gouvernement burundais, précise la Cour. La procureure Fatou Bensouda avait entamé en avril 2016 un examen préliminaire de la situation au Burundi. Elle s'intéressait à des cas présumés de meurtre, tentative de meurtre, emprisonnement ou privation grave de liberté, mais aussi ceux de torture, viol, disparition forcée et persécution. Le Burundi s'est retiré de la CPI avec effet au 27 octobre dernier, mais le tribunal international reste compétent pour la période précédant cette date où le pays reconnaissait la juridiction. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en 2015 sa candidature à un troisième mandat qu'il a obtenu après une élection boycottée par l'opposition.
Les autorités camerounaises ont décidé d'imposer un couvre-feu nocturne à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, où 2 gendarmes ont été abattus mardi par des séparatistes présumés. Le préfet du département de la Mézam, ayant pour chef-lieu Bamenda, informe les habitants de cette localité que la circulation des personnes, des voitures et des motos est interdite dans la ville jusqu'au 23 novembre de 22h locales à 5h du matin, indique une décision préfectorale. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a appelé la RDC à organiser des élections annoncées pour décembre 2018 libres, pacifiques et honnêtes en établissant un calendrier électoral consensuel, a déclaré un expert du comité à Genève. Il a par ailleurs appelé à mettre un terme aux intimidations et violations des droits des opposants, notamment des candidats déclarés à l'élection présidentielle. En RDC, 9 enfants sont morts dans un naufrage sur la rive congolaise du lac Tanganyika face à la Tanzanie. Une pirogue motorisée qui quittait Kalemie pour le port de Wimbi a fait naufrage mercredi. Sur les 21 passagers, 9 sont morts, tous sont des enfants, selon un responsable du service lacustre. En Mauritanie, le blogueur Mohamed Ould Mketir est en passe de recouvrer la liberté, rejugé pour blasphème par la cour d'appel de Ouagadougou. Il a écopé de 2 ans de prison qu'il a déjà purgé. Eric Manirakidza.
Ce nouveau procès en appel fait suite à la cassation de la peine de mort du 31 janvier 2017. La Cour suprême avait donc renvoyé le dossier devant une cour d'appel autrement composée pour révision. Cheikh Ould Mohamed Ould Moureitir a vu sa condamnation à mort amenée à 2 ans de prison. Il doit également payer une amende d'environ 146 euros. En détention depuis janvier 2014, Moureitir a déjà purgé sa peine. Il était poursuivi pour apostasie à la suite d'un billet de blog dans lequel il critiquait l'utilisation de la religion pour justifier certaines discriminations au sein de la société mauritanienne. Après le verdict, Moureitir a été rapidement reconduit en prison sous bonne escorte et des avocats de la défense sous la protection des policiers. Des femmes pleuraient à chaudes larmes et des insultes fusées contre la cour et le gouvernement. Une partie de l'assistance leur reprochait d'avoir choisi le camp de l'Occident au lieu de défendre le prophète de l'islam, insulté selon elle par le prévenu. Pour Amnesty International, cette libération est un immense soulagement. Cette ONG appelle les autorités mauritaniennes à garantir la sécurité de Mouhaitir une fois relâché pour vivre sans menace d'agression physique et recouvrer sa dignité. Ces trois dernières années, de nombreux rassemblements de partisans de l'islam à Mauritanie réclamaient son exécution.
Nous reviendrons sur le sujet dans la rubrique magazine. Des milliers de Togolais sont descendus ce jeudi dans les rues de Lomé pour la troisième journée consécutive pour demander la démission du président Fournia Singbé. La mobilisation lancée par l'opposition ne faiblit pas depuis fin août, avec des marches quasiment chaque semaine dans la capitale et les régions du Nord, longtemps réputées acquises au pouvoir. Robert Mugabe a rebaptisé ce jeudi l'aéroport international d'Harare qui porte désormais son propre nom. La Ligue des jeunes de la ZANU-PF avait fait campagne pour changer le nom de l'aéroport, menaçant le ministre des Transports, Joram Gumbo, de ne pas être invité à l'anniversaire du président s'il ne se pliait pas à cette demande. Pour le MDC de l'opposition, rebaptiser l'aéroport d'Harare est une insulte pour les Zimbabwéens. Dans un communiqué, la formation de Morgan Tsvangirai a condamné toute tentative de personnification des institutions nationales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a perdu la dernière ville encore sous contrôle en Syrie. Il a été chassé de Boukamal par le régime syrien et ses alliés lors d'une opération éclair. Yacouba Ouedraogo.
Nos forces armées, en coopération avec les forces supplétives et alliées, ont libéré Boukamal, a annoncé dans un communiqué l'armée syrienne en précisant que cette libération de Boukamal représente l'échec du projet du groupe terroriste dans la région. Soutenu par des raids de l'aviation militaire russe, les troupes de Bachar al-Assad et ses alliés avaient progressé ces derniers jours vers Boukamal avant de l'encercler mercredi et de la prendre d'assaut. L'offensive a été menée par des milices irakiennes, des combattants du Hezbollah libanais et des gardiens iraniens de la révolution, selon Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce dernier a précisé que les djihadistes se sont retirés vers la province de Daer Essor, ajoutant que l'EI ne contrôle plus que 30% de cette province. Moscou a confirmé la liquidation du foyer du terrorisme international en territoire syrien, prévenant toutefois que le niveau de la menace reste élevé. L'ONU estime à 120 000 le nombre de déplacés qu'ont suscité les combats. Ailleurs en Syrie, le groupe État islamique est présent dans deux quartiers périphériques de Damas, dans quelques poches à Homs et dans le sud du pays.
Rencontre positive entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, selon le président américain Bagassi Koura.
Un an après son élection, le président des États-Unis a été accueilli avec tous les honneurs par les autorités de Chine, un pays qu'il a passé les deux dernières années à critiquer.
Qui peut accuser un pays de profiter d'un autre au profit de ses propres citoyens? Je donne crédit à la Chine.
Contrairement à ses discours passés, Trump a préféré accuser ses prédécesseurs à la Maison-Blanche.
J'accuse les administrations passées d'avoir permis que ce déficit commercial hors contrôle ait eu lieu et qu'il se soit agrandi.
La coopération entre les deux premières puissances mondiales est la seule option viable, a de son côté souligné le dirigeant chinois. Le locataire de la Maison Blanche veut que les lignes bougent face à la dictature de Pyongyang. La Chine, qui assure la quasi-totalité du commerce de la Corée du Nord, est en position cruciale pour faire pression sur le régime de Kim Jong-un, qui a procédé début septembre à un nouvel essai nucléaire.
Plus de 200 personnes ont été arrêtées en Arabie Saoudite dans le cadre d'une campagne anticorruption. L'ampleur potentielle des actes de corruption révélés est très grande, a indiqué le procureur général, précisant que les fraudes atteignent 100 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite a appelé ses ressortissants à quitter le plus vite possible le Liban quelques jours après l'annonce de la démission surprise depuis Riyad de Saad Hariri du poste de Premier ministre libanais. Une source au ministère des Affaires étrangères, citée par l'agence officielle SPA, a également appelé les Saoudiens à ne pas se rendre au Liban en évoquant sans autre précision la situation dans ce pays. Des milliers de Palestiniens ont commémoré ce jeudi dans la bande de Gaza la mort du leader historique Yasser Arafat il y a 13 ans, dans un contexte de réconciliation entre mouvements palestiniens rivaux. Ces personnes répondaient à l'appel de Mohamed Dahlan, ancien homme fort du parti Fatah, aujourd'hui exilé aux Émirats Arabes Unis. Autrefois homme de confiance du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, il est tombé en disgrâce et a été exclu du Fatah. Il est considéré comme l'un des grands rivaux et candidat à la succession de M. Abbas. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dividico.
En Côte d'Ivoire, le village de Drangouiné est désormais éclairé à l'aide d'ampoules LED connectées à des panneaux solaires. Cet éclairage LED permet aussi d'avoir Internet et la télévision sans câble ni Wi-Fi. Environ 5000 personnes bénéficient de cette technologie appelée LiFi pour Light Fidelity. Ces ampoules LED installées par un entrepreneur ivoirien transmettent les données Internet, y compris les photos et les vidéos, aux ordinateurs, aux smartphones et aux tablettes. Contrairement à la Wi-Fi qui utilise les ondes radio, la LiFi se sert du spectre lumineux pour transmettre les données. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dévoilé un budget record s'élevant à plus de 28 milliards de dollars pour l'année 2018. Ce budget représente une hausse de 16% par rapport au budget 2017 de 24 milliards de dollars. Il a été conçu avec l'objectif d'une production pétrolière de 2,3 millions de barils par jour, soit un prix de 45 dollars par baril. Selon les analystes, la mise en œuvre d'un budget aussi ambitieux sera difficile, car les objectifs de recettes et de dépenses fixés par le Nigeria ne sont jamais atteints. L'Union européenne a octroyé au Cameroun 63 milliards de francs CFA pour appuyer sa stratégie de développement rural. La convention de financement pour le cycle 2017-2019 a été signée ce jeudi par le ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé. Ce financement permettra aux autorités d'améliorer la productivité des exploitations agricoles familiales.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Jour moins un du match Afrique du Sud, Sénégal, Aliou Cissé se rassure sur les cas de Modj et Guette.
Effectivement, les Lions de la Teranga vont se produire sans deux de leurs joueurs importants. Même s'il est suspendu pour cette rencontre, le défenseur Karam Bodj souffre d'angine et l'attaquant Opa Gate a des maux de ventre. Mais Aliou Cissé n'est pas inquiet et pense qu'il peut les récupérer aujourd'hui. Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont besoin que de deux points pour valider leur billet pour la phase finale de la Coupe du Monde en Russie.
Le Maroc, lui, y est presque et lance des vols spéciaux pour rallier Abidjan. Passage obligé pour Russie 2018.
Tout à fait, le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire ce samedi. Si la sélection est déjà arrivée à Abidjan, la mobilisation est aussi grande partout dans le royaume chérifien. Depuis déjà deux jours, la plupart des supporters des Lions de l'Atlas sont déjà dans la capitale ivoirienne. Les compagnies marocaines ont réservé des vols spéciaux pour répondre à la forte demande. Et ce n'est pas fini, tenez-vous bien, Royal Air Maroc lance de nouveaux vols supplémentaires à destination d'Abidjan pour satisfaire d'autres supporters.
Le Stade Rennais a un nouvel entraîneur en Ligue 1 française.
Et oui, après avoir annoncé le départ de Christian Gueucouf, le club breton a officialisé le recrutement de Sabri Lamouchi. Le franco-tunisien a signé un contrat de 2 ans plus une année en option. Ancien joueur de l'AJ Auxerre ou encore de l'Olympique de Marseille, Lamouchi va entraîner pour la première fois en Ligue 1. On se rappelle encore, il a débuté sa carrière par la Côte d'Ivoire où il a dirigé les éléphants de 2012 à 2014 avec une participation à la Coupe du Monde. Depuis son départ, il entraînait le club qatari d'Al Jaiz.
Evra sous le feu croisé de l'OM et de l'UEFA.
Patrice Evra risque une lourde sanction et un licenciement pour son coup de pied contre un supporter. Son cas sera examiné ce vendredi par l'UEFA et il est convoqué parallèlement par la direction de l'Olympique de Marseille. Les images tournent toujours. On se rappelle, le 2 novembre, avant la défaite 1-0 contre Guimarães, l'arrière gauche de l'OM a asséné un coup de pied à un supporter injurieux. L'arbitre lui a infligé un carton rouge avant le coup d'envoi. C'est une première en Europa League.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ouverture d'une enquête sur des crimes contre l'humanité présumés qui auraient fait au moins 1200 morts au Burundi, devenu fin octobre le premier pays à quitter la CPI. Anastasie Tudiech a joint maître Bernard Minguin, membre du collectif Justice pour le Burundi.
Pour la protection des témoins et des victimes, pour permettre au bureau du procureur de s'organiser, nous sommes évidemment très satisfaits de cet aspect-là de la décision qui a été prise. Et nous avons fait confiance au bureau du procureur et aujourd'hui nous sommes récompensés.
Le Burundi a quitté la Cour pénale internationale le 27 octobre dernier. Donc comment la CPI peut-elle autoriser une enquête dans un État souverain qui s'est retiré de l'organisation ?
Parce que l'État ne peut pas, en quittant le traité de Rome et en quittant la CPI, ne peut pas se dégager de sa responsabilité pénale internationale de façon unilatérale. Il y a des règles à respecter et c'est ce qui vient d'être mis en œuvre.
Quels sont les crimes sur lesquels la CPI ouvre l'enquête ?
Nous sommes en plein dans le cadre de crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes qui sont commis contre des familles et des individus, des citoyens, la population du Burundi par de membres de l'appareil d'État ainsi que de miliciens Imbonerakure à l'égard de la population civile.
Maître Minguin, le Burundi a-t-il obligation de coopérer avec la CPI ?
Alors, la date du prononcé de la décision implique, dans le respect des normes du traité, l'obligation pour le Burundi de coopérer avec la CPI.
Et que se passe-t-il si Bujumbura conteste cette notification d'enquête ?
À partir de maintenant, le bureau du procureur a la possibilité de solliciter un certain nombre de mesures de coercition auprès de la chambre d'enquête.
Quelles sont les prochaines étapes ?
L'étape qui vient et qui est fondamentale, c'est l'étape de l'enquête. Et ce que nous pouvons vous dire, nous, collectif des victimes, c'est que nous avons des milliers de Burundais qui sont derrière nous et nous allons vraiment collaborer pleinement et offrir toute notre collaboration et toute notre assistance au bureau du procureur, non pas par esprit de vengeance, mais parce que nous souhaitons que justice soit faite dans ce dossier.
Cet avocat belge, spécialiste du Burundi, c'était maître Bernard Minguin, membre du collectif Justice pour le Burundi.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Retour sur le procès en appel à Ouédibou en Mauritanie du blogueur Mohamed Ould Mekir, initialement condamné à mort pour blasphème. Il a écopé de 2 ans de prison qu'il a déjà purgé. Le blogueur assure avoir tout simplement écrit un billet dénonçant l'utilisation de la religion pour justifier diverses formes de discrimination en Mauritanie. Pour en savoir plus, Eric Manirakiza a joint à Nouakchott Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar.
C'est un coup de grâce. On peut dire que Ould Mekir a été tout simplement sauvé de la mort, mais ce n'est pas également une surprise parce que presque l'opinion a été un petit peu préparée. Les manifestations contre le blogueur étaient tolérées avant, mais la dernière manifestation n'a pas été donc tolérée. En quelque sorte, on s'attendait à cette libération. Un aspect qu'il faut rappeler, c'était que Ould Mekir s'était repenti, donc c'était difficile à ce que cette peine capitale soit donc maintenue. Pour le moment, les alentours de la cour d'appel ont été bouclés et sécurisés. Pour le moment, il n'y a pas encore de réaction dans la rue, mais d'habitude, ces questions qui concernent la religion ou autre chose en Mauritanie, il y a eu souvent des manifestations tous les vendredis après la prière. Donc, hebdomadaire, on attend demain, peut-être qu'il y aura des manifestations.
Il y en a donc qui veulent son exécution. Est-ce que vous pensez qu'il sera
facile de garantir sa liberté une fois relâché?
Bon, il sera un peu difficile s'il reste en Mauritanie, peut-être de garantir sa sécurité. Moi, je pense qu'il se peut qu'il soit libéré et puis laissé partir à l'extérieur, peut-être, parce qu'en Mauritanie, il pourrait être vraiment en danger, parce que toutes les manifestations auxquelles on a assisté, c'était des manifestations qui demandaient la peine de mort, qui réclamaient sa tête. Donc, pour qu'il reste ici, dans le pays, ça pourrait être un peu dangereux pour lui.
Cette affaire est quand même inédite. C'est la première fois dans le pays que quelqu'un est poursuivi pour apostasie.
Oui, c'est la première fois qu'il y a donc une condamnation à mort pour apostasie. Et cela fait qu'on a constaté cette précipitation au niveau de la justice, au niveau du procès. La Cour suprême avait finalement annulé le premier procès en appel parce que ce premier procès en appel avait donc confirmé la peine capitale, donc qui a été prononcée en première instance, tout simplement. Mais les avocats avaient dit que Ouldoum Khaïtir s'était repenti, donc il ne fallait pas maintenir cette peine de mort. Donc on constate un tout petit peu, comme c'est inédit, comme c'est une première, qu'il y a eu des précipitations. La première manifestation aussi contre Ouldoum Khaïtir, il faut le rappeler, a été accueillie par le président de la République lui-même. Il avait accueilli les manifestants et tout ça explique cette précipitation, que ce soit pour l'opinion publique mauritanienne, la rue et également la justice. Et maintenant aujourd'hui que le coup a été rattrapé et que justice a été faite.
C'était Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar. Il était joint à Nouakchott en Mauritanie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En Centrafrique, environ 70 délégations venues d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont pris part pendant 48 heures à Bangui au Forum des investisseurs. Ce rendez-vous fait suite à un plan de consolidation de la paix et de relèvement économique du pays, présenté au sommet des bailleurs de fonds à Bruxelles en 2016. Moïse Zami du comité de pilotage parle des enjeux de ce forum au micro d'Ekiabadou.
C'était plus de 100 investisseurs qui avaient été invités et compte tenu de la salle qui avait été réservée, il y avait plein de monde, surtout les investisseurs venus de l'Europe et d'Asie aussi. C'est que on a dépassé largement ce qu'on espérait avoir comme investisseurs dans le pays. Vous savez que la République centrafricaine a beaucoup de potentialités qui ont été exposées au cours de cet atelier et des documents ont été distribués aux investisseurs venus de l'extérieur et de la sous-région africaine aussi, qu'ils ont vu qu'on avait suffisamment de potentialités et qu'ils pouvaient investir dans ces potentialités-là. D'autre part, il leur a été montré que les texte juridique pour améliorer le climat des affaires a été pris et c'est très important pour eux parce que, vous savez, le climat des affaires est très important. Un investisseur ne viendrait pas si les choses ne sont pas intéressantes pour lui.
Alors, les possibilités, vous pensez à quoi, par exemple?
Vous savez, comme nous sommes dans un processus de relèvement, puisque nous sortons de conflit, tout est à refaire. Nous avons d'abord les infrastructures pour pouvoir relancer l'économie. Les infrastructures sont très importantes. Nous sommes un pays enclavé. Il faut qu'on soit désenclavé pour pouvoir communiquer avec les autres régions et que si les investisseurs sont ici, qu'ils puissent facilement faire venir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir investir correctement. Donc, nous avons les infrastructures routières, nous avons la forêt, nous avons les mines, nous avons l'agriculture qui constitue la base même de l'économie centrafricaine et qui est traitée de façon artisanale jusqu'ici. On commence à développer de nouvelles stratégies, à amener des équipements nécessaires pour booster l'économie dans ce sens-là. Je pense que ça devrait aider.
Combien de temps la Centrafrique a besoin pour pouvoir mettre en avant toutes ses potentialités avec les investisseurs étrangers?
Bon, vous savez, si les investisseurs arrivent, ils auront la possibilité de faire en commun avec les autres les investisseurs locaux une étude plus approfondie. Par exemple, aujourd'hui, je puis vous dire que nous avons 470 indices de substances minérales. Mais on n'exploite que dans ce cas-là que le diamant et l'or. Vous voyez, il reste encore beaucoup de choses comme le cuivre, l'uranium, les autres éléments, mais il faudra qu'on fasse des études approfondies pour déterminer effectivement la quantité et la portée de tous ces éléments pour pouvoir les exploiter parfaitement.
C'était Moïse Zami du comité de pilotage du Forum des investisseurs à Bangui.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président américain Donald Trump poursuit sa tournée asiatique. Durant cette étape chinoise, beaucoup d'observateurs semblent surpris de la différence de ton du locataire de la Maison Blanche qui n'a pas tari d'éloges sur Pékin. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Pierre Picard, spécialiste de la Chine.
Je pense que cette confiance, entre guillemets, mais je dirais ce partenariat entre la Chine et les États-Unis, il a été formaté lorsque le président chinois a été reçu dans la résidence de Donald Trump en Floride. Et on sait très peu les choses qui se sont passées sur cette réunion et le dîner lors de cette première rencontre, mais on constate en tout cas que depuis, le ton de Donald Trump a changé. Et puis, il y a un autre élément. C'est vrai que Donald Trump, aujourd'hui, est beaucoup plus dans la réelle politique, il est beaucoup plus pragmatique. Et il a en même temps, en face de lui, un leader chinois, je dirais, qui est excessivement ouvert.
Docteur Picard, justement, quand vous parlez du pragmatisme du président Trump, vous pensez qu'il cherche à amener la Chine à coopérer davantage sur le dossier nord-coréen?
D'un côté, on a un leader nord-coréen qui ne veut pas terminer comme Kadhafi, donc il se méfie énormément de tout le monde, y compris des Chinois. Et on a un Donald Trump qui est conscient finalement que l'administration Obama n'a pas eu beaucoup de succès vis-à-vis de la Corée du Nord.
Sur le plan commercial, le président Trump a toujours promis de se battre pour un meilleur équilibre de la balance commerciale entre les deux pays. Est-ce que vous pensez quand même que c'est possible?
Oui, c'est possible. C'est possible parce que les Chinois commencent à changer. Les Chinois veulent maintenant produire de la qualité. Et puis, il y a aussi des négociations qui peuvent être menées avec la nouvelle route de la soie du 21e siècle, y compris avec les Américains.
Et justement, il y a l'annonce de cet accord commercial, des contrats commerciaux de près de 253 milliards de dollars.
Oui,
qui,
oui.
Ce serait à l'avantage de la Chine ou des États-Unis, selon vous?
Et écoutez, quand on voit que Boeing remporte un succès avec près de, je crois, c'est 300 avions, je crois, et 37 milliards de dollars, bon, si on arrive à avoir un partenariat, je dirais, économique honnête entre les États-Unis et la Chine, eh bien, ce serait, écoutez, une très bonne nouvelle parce que cela va faire, comment dire, ça va rebooster, de mon point de vue, l'économie américaine qui a besoin aujourd'hui de la Chine, non pas uniquement de la Chine pour son marché intérieur, mais parce que la Chine est présente dans le monde entier.
C'était Pierre Picard, politologue, notamment spécialiste de la Chine. Il était joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, à la mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Bosco Volaric, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com. Pour l'actualité en continu, très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.